des analyses sur le monde sans frontières. Savoir et comprendre l'international, Guillaume Lavoie.
Je retrouve Guillaume Lavoie pour qu'enfin nous puissions parler de l'entrevue de Biden à 60 Minutes. On avait laissé ça en plan hier, mais c'est pour mieux revenir aujourd'hui. Guillaume, c'est toute une entrevue.
Bonjour Yasmine. Oui, c'est une très bonne entrevue. D'abord, il y a des choses des fois où Biden nous surprend. Il y a une vieille blague dans Yes Minister où il dit des fois dire la vérité, ça te donne l'avantage de la surprise en politique. Des fois, lorsqu'on pose une question à Biden, une question complexe, là, où on s'attend à louvoyer, par exemple, allez-vous défendre Taïwan si la Chine attaque? Il répond oui. Puis attends. Comme dans le sens, ben, avez-vous une autre question? Je vous ai répondu, là. Mais il a couvert. Alors, c'est ça qui est intéressant, évidemment. Les entrevues de 60 Minutes, ça fait 50 ans. C'est moi, parmi mes entrevues préférées, et ça reprend la critique que j'avais sur le débat, parce qu'on questionne quelqu'un sur le temps long. On a le temps de faire notre propre conclusion, pas juste sur ce qu'il dit, mais sur à quel point c'est... On ne peut pas survivre juste avec des slogans à 60 minutes. Là. Le vide finit par apparaître.
Oui.
Évidemment, c'est pas ça qui... c'est pas la grande menace face à Biden. Ça fait tellement d'années qu'il est dans ces domaines-là que là-dessus, il y a une idée assez bien faite. Mais d'abord, on a parlé de ce que l'éléphant dans le salon, l'économie américaine. Et l'économie américaine, là, elle oblige à peu près tout le monde à ressortir ses livres d'économie. Là. Il n'y a rien qui devrait arriver en même temps. D'abord, il y a une chute spectaculaire du marché boursier. Alors, regardez aux états de compte, là, c'est pas super intéressant. L'inflation, record depuis 40 ans à 8,2%, mais augmentation moins grande qu'avant. Et là, ben là, lui, il dit, ben, le manufacturier va revenir aux États-Unis. On en parlait hier. Pas sûr qu'avec tout ce qui se passe avec la robotisation en Chine, que ça va arriver. Mais bref, sur l'économie, chancelant, mais pas lui, là, mais c'est-à-dire que son bilan est pas trop mal dans les circonstances. On ne peut pas accuser Biden d'être responsable de l'inflation, sinon il est responsable de l'inflation à plein d'endroits.
Ben, c'est ça.
Mais à date, ça tient. Maintenant, est-ce que ça va tenir jusqu'à la date fatidique du 8 novembre? Parce que si c'est pour avoir une embellie, pour Biden, c'est tout de suite qu'il doit vouloir l'avoir. Mais après ça, on a pivoté sur les relations internationales. Et encore là, on revient à des thèmes presque éternels depuis là, quelques mois, le prix de l'essence, qui est bien sûr relié à l'Ukraine. Et là, sur l'Ukraine, il a été d'une clarté totale en disant « Nous allons aller aussi loin qu'il faudra. » Alors, arrêtez de me questionner à savoir, oui, mais là, vu que les
Russes sont là... Mais quand tu dis, Guillaume, « aussi loin qu'il faudra », est-ce que c'est aussi longtemps qu'il le faudra avec l'appui financier, notamment militaire, que les États-Unis apportent, notamment avec l'OTAN, ou est-ce qu'il laisse entrevoir une intervention réelle de l'armée américaine dans le conflit ukrainien?
Mais ça, c'est très intéressant. Parce que pour ce qui est de l'Ukraine, il a dit « je vais aller aussi loin ou aussi longtemps qu'il le faudra », c'est-à-dire « je vais fournir autant d'armes qu'ils en auront besoin, autant d'argent et autres ». Là, il doit souhaiter que ça se passe bien aux élections de mi-mandat parce que le président américain ne peut pas dépenser un vieux dixième s'il n'y a pas la permission du Congrès. Mais à date, ça marche, sa stratégie. Et tout le monde là-dessus, ça pourrait être extraordinairement risqué, mais il a dit, je vais faire ce que je fais là tant et aussi longtemps que ça va durer.
Oui.
Mais là, tu mettais le doigt sur la chose, parce que lorsqu'on lui a posé la question sur Taïwan, il n'a pas dit, je vais continuer à suivre ma politique. On lui a posé directement, est-ce que vous engageriez des forces américaines directement pour Taïwan si jamais la Chine envahissait? Et c'est lui qui a répondu oui. Et là, ça c'est aller plus loin que l'Ukraine. Là. Parce qu'en Ukraine, depuis le début, il dit il n'y a pas une botte de soldats américains qui ira sur le sol ukrainien. On fournit des armes, on est leur meilleur fournisseur, entraîneur, on donne des renseignements, mais on n'intervient pas directement. Pour la Chine, il l'a dit. Évidemment, ça a fait sauter plusieurs personnes en bas de leur chaise en Chine, au département d'État aussi. La Chine est furieuse en disant « mais de quoi est-ce qu'il se mêle ?» Mais là-dessus, c'est un peu un classique de Biden. Je vous le dis comme je le pense, mais on ne devrait pas être si surpris que ça, parce que ça fait 2-3 fois que le président américain Biden dit « s'il y a une invasion de Taïwan, on va être là, militairement. » Alors, ils envoient un peu des messages très clairs. Comment est-ce que la Chine va organiser la suite? Il faut voir. Mais c'est un message assez fort. Puis ensuite, on a eu droit à un autre classique de Biden, un homme qui parle toujours aussi clairement. Des fois, Biden parle, et des fois, ça lui échappe un peu. Et, entre autres, il a dit les mots « la pandémie est terminée ».
Oui, mais c'est ce que le patron de l'OMS vient pas de sortir pour dire qu'on est sur la voie de sortie, mais c'est pas toujours terminé.
C'était un peu là-dessus, ça me faisait avec peur penser à l'erreur extraordinaire de George W. Bush. C'est pas la sienne, là, c'est pas lui qui est allé mettre la pancarte. On se souvient de la bannière sur le porte-avions. Mission accomplie, quand il était question de la guerre en Afghanistan et en Irak. Finalement, on s'est rendu compte que c'était pas fini tout à fait, là. Alors, quand tu déclares que quelque chose est terminé, c'est un vieux truc d'argumentation, ça veut dire que presque chaque nouveau cas est un problème, là. Politique, à tout le moins. Alors, d'aller dire ça tout de suite, c'est problématique, mais aussi pour son autorité politique. Parce qu'il a eu le droit de dépenser beaucoup plus d'argent et de manière beaucoup plus facile, parce qu'il s'est fait donner des pouvoirs, appelons ça des pouvoirs d'urgence. Une autorité spéciale donnée par le Congrès, parce qu'il y avait une pandémie. Ben, ça va être difficile de retourner au Congrès pour demander ces pouvoirs-là, puisque vous venez de déclarer que la pandémie était terminée. Alors là-dessus, c'est un peu comme les exécutifs qui disent, ben là, il n'y a plus de crise. Ben OK, mais là, c'est pas vrai que je te renouvelle tes pouvoirs d'urgence, là.
S'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de pouvoir de crise. C'est aussi simple que ça. Sinon, il a laissé un doute quant à sa volonté de se représenter en 2024. Va-t-il être sur les starting blocks, comme on dit en bon langue de Shakespeare, ou est-ce qu'il va céder sa place peut-être à une Kamala Harris ou à un autre démocrate?
Mais là, sa réponse a été « c'est mon intention, mais c'est pas encore confirmé ». Mais d'abord, il faut savoir qu'il n'y a presque pas le choix de dire ça, là. La seule raison pourquoi on lui pose la question, c'est parce qu'il est rendu à un âge plus que vénérable. Puis c'est vrai que quand on le voit marcher, c'est pas le Joe Biden d'il y a 4 ou 5 ans. Il y a une différence majeure. Mais si jamais il disait « oui, je me représente pas, ça va être mon seul mandat », c'est pas qu'il arrête d'être président immédiatement, mais pas loin. Parce qu'il y a une grande loi en politique qui est le pouvoir que tu as, c'est pas le pouvoir que tu as aujourd'hui. C'est le pouvoir que les gens pensent que tu auras demain.
Oui.
Et c'est ça qui change. Et même Brian Mulroney, lorsqu'il avait annoncé qu'il allait démissionner et rester au pouvoir pendant quelques mois, et lui-même avait été absolument surpris à quelle vitesse le pouvoir lui glissait dans dessous des mains. Parce que tout le monde veut être proche de celui qui va être dans la chaise après. Mais c'est aussi qu'il n'y a pas d'héritier naturel au Parti démocrate. Moi, j'y crois pas du tout là que ça va tomber dans les mains de manière évidente à Kamala Harris. Sa cote vaut pas mal moins cher maintenant que v'là 2 ans.
Puis sa cote ne valait pas très cher durant la dernière course chez les démocrates.
Non, mais puis là, on se dit, bon, ben la vice-présidence, c'est toujours... La vice-présidence, c'est que t'es connu, mais personne sait t'es qui. C'est un peu le drame de ce... La vice-présidence, c'est d'être presque tout, mais en attendant, t'es presque rien. Mais là, si j'aime, comme il n'y a pas d'héritier clair, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui vont s'activer pour leur campagne. Alors imaginez, là, vous vous tournez de bord, là, vous dites, OK, l'armée des démocrates, on s'en va par là. Là, vous réalisez que non, il y en a un qui est en train de faire caucus dans son coin. Il y en a un autre qui ramasse de l'argent dans l'autre coin. L'autre est en train de fomenter un coup. Alors, ce serait un peu le bordel total, là. Ce serait la pire chose. Même si Joe Biden ne se représente pas, il ne dira pas avant les élections de mi-mandat, puis probablement qu'il va attendre de voir les résolutions, les élections, le résultat des élections de mi-mandat pour mieux prendre sa décision. Puis il y a une chose qui va avoir un impact aussi, c'est qui l'adversaire républicain? Si jamais c'était Trump, moi je pense que peut-être que Biden est la meilleure personne pour battre Trump. Mais si c'est pas Trump, peut-être que là, Biden sera
les deux seraient pas mal vieux, là. Les deux seraient pas mal vieux à si les deux se présentent pour les prochaines élections en 2024. Tant Trump
oui,
que Biden.
On est déjà dans le record des candidats les plus vieux. C'était, et puis même Joe Biden est le président le plus vieux dans l'histoire maintenant. Alors, moi, je suis de ceux qui avaient dit publiquement, puis là, je vais vivre avec mon erreur si jamais je me trompe, que ni Trump ni Biden ne sera candidat en 2024. Et là, je vous dirais que j'ai un petit doute, là. Joe Biden a réussi à créer un petit doute chez moi, à savoir est-ce qu'il pourrait s'essayer encore, parce qu'il a toutes les cartes du jeu dans sa main. Parce que s'il décide d'y aller, il n'y a pas de démocrate, sauf peut-être l'espèce de gauche caviar, indisciplinée, déconnectée de la réalité, incarnée par Ocasio-Cortez, pourrait dire « Moi, je veux challenger le président sortant de mon parti parce qu'il n'est pas assez à gauche ou assez pur. » La résultante de ça, c'est qu'habituellement, tu fais perdre ton candidat à la générale. C'est arrivé à Carter, c'est arrivé à George Bush père. Alors, si jamais il décide d'aller candidat, il devrait être couronné comme candidat assez rapidement. Mais je pense qu'il doit se dire, parce que c'est humain aussi, si Trump est l'autre côté, je veux faire tout ce que je peux, moi aussi, pour l'empêcher d'entrer dans la Maison-Blanche. Et je suis sûr qu'il est convaincu, et les sondages lui donnent raison, qu'il est la meilleure personne pour battre Donald Trump.
On va suivre tout ça parce que c'est pas encore terminé et peut-être que les résultats des élections de mi-mandat pourraient avoir une certaine répercussion dans la réflexion de Joe Biden quant à son intention de briguer ou non les suffrages en 2024.
Ça va être gigantesque. D'abord, imaginez s'il avait encore les deux chambres. On peut rêver. Il peut rêver, Joe Biden. Mais là, c'est le fun d'être président, là. Et si jamais les deux chambres passaient du côté républicain, parlez-en Barack Obama. Barack Obama a fait essentiellement toutes ses grandes lois marquantes dans les deux premières années de ses 8 ans. Le reste, il y avait un congrès divisé et il était plus à l'intendance qu'autre chose. C'est pas mal plus dur de gouverner dans ce temps-là.
Guillaume Lavoie, merci beaucoup pour tes lumières. On se retrouve demain.
Au plaisir.